Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir une rencontre autour de Entrée en pédagogie antiraciste, d'une lutte syndicale à des pratiques émancipatrices, qui a été publiée chez Shed il y a peu. On accueille du coup Manel et Karim de Sud-Éduc 93 qui font partie du collectif d'auteuristes du livre. Et Asia et Basile de Premier Matin de Novembre, une petite maison d'édition toulousaine, enfin une grande maison d'édition toulousaine, qui vont faire la modération de la rencontre. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Je vais commencer par remercier Terra Nova, l'équipe des libraires, Lydia et Shed Publishing pour l'organisation de cette rencontre. Je vais remercier également les intervenantes pour leur venue. Et on va organiser la discussion en trois parties. Une première partie où on va discuter de la commission et de comment elle a été montée et comment vous avez décidé de porter ce livre-là. On reviendra ensuite sur un petit temps sur les articles que vous avez coécrits. Et on reviendra en dernière partie sur une discussion un peu plus large autour de l'antiracisme et de l'éducation. Et enfin, on ouvrira les questions au public. Qui je suis sûr en plein de questions à nous poser, à vous poser pardon. Voilà, je vais laisser la parole à Basile pour déjà pour la première partie autour de la commission antiraciste de Sud Éducation 93.
Donc, ma première question va être assez simple et sommaire. C'est on voulait vous poser une question sur la constitution en fait. De votre commission antiraciste. Quand est-ce qu'elle a vu le jour et avec quels objectifs, avec quelles personnes? Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, bon, évidemment, elle a fait grand bruit, hein, cette commission, peut-être que certaines en ont entendu parler, mais voilà, est-ce que vous pouvez nous parler de la généalogie, en fait, de cette commission, déjà?
Oui, alors du coup, déjà merci à toutes et à tous d'être présents et présentes ce soir. Merci à vous de faire la médiation et merci à Terra Nova de nous inviter. Du coup, nous, en fait, on était plusieurs enseignants et enseignantes racisés à s'être rencontrés au camp d'été, des coloniales. Je ne sais pas s'il faut que j'explique, mais en gros, c'était des journées d'ateliers, etc., sur l'antiracisme de manière générale, en non-mixité racisée. Et pendant ces journées-là, ces week-ends-là, on a créé des ateliers en tant que personnel racisé de l'éducation nationale. Et donc, on a fait un peu un constat de la manière dont c'était pas évident pour nous d'être des personnels racisés dans un contexte où on est en minorité, et que du coup les questions de l'antiracisme ne se sont pas portées du tout. Et donc on s'est rendu compte aussi qu'il fallait investir les espaces grâce au syndicat et à travers le syndicat. Du coup avec Manel, on s'est dit que, enfin, on était syndiqués chez Sud Éducation et avec une commission antiraciste qui n'était pas du tout vivante. Il faut savoir que les questions d'antiracisme dans la commission antiraciste, c'était traité juste des OQTF, des familles par exemple, et des questions liées à la migration, etc. T'as dit quoi ? Et aux sans-papiers. Et voilà, et nous on s'est dit qu'il était important de l'investir et de commencer à travailler dedans. Voilà. Et donc ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on a su qu'un stage allait être monté, un stage antiraciste sur les questions d'intersectionnalité, et que les personnes qui le montaient, c'était que des femmes blanches. Et on s'est dit qu'il était important. qu'il était important, voilà, Manel, William, une autre collègue qui a écrit le livre aussi, et moi, d'investir le stage et de proposer aussi des ateliers et de parler en tant que personne concernée. Voilà, globalement. Et donc, à partir de 2017, on a décidé de monter le premier stage qui s'appelait À la croisée des oppressions, qui était destiné principalement au personnel de l'éducation. Et après, je pense que tu diras la suite.
D'accord. En fait, c'est, du coup, de manière pratique, votre domaine d'intervention, c'est lequel ? C'est-à-dire que, donc là, vous nous dites que, effectivement, les syndicats s'occupent, par exemple, des familles de sans-papiers, des OQTF, etc. En quoi l'intervention, en fait, de votre structure, elle se diffère ? Et comment elle intervient, en fait, auprès des personnels ?
Bonjour, alors déjà je voulais aussi vous remercier tous d'être là et je voulais dire aussi qu'on était très très contents avec Karim d'être à Toulouse parce qu'en plus on a une histoire avec Toulouse chacun d'entre nous, donc voilà, on est contents de faire la date ici, vraiment dans cette ville. Voilà, mais on est à Terra Nova, une librairie dans laquelle on a beaucoup acheté des livres quand on était ici, voilà. Alors, concernant le stage en 2017, il a été pensé que, en fait, le constat est en fait qu'on a eu, nous, en tant que personnel non blanc de l'éducation et aussi formé aux questions de l'antiracisme, c'est que l'école ne se questionne pas sur le racisme qu'elle produit. C'est-à-dire qu'en fait, elle est aveugle à la race sociale. Donc l'école se pense antiraciste, l'école pense qu'elle combat le racisme, alors que nous, on est tout à fait conscients que, mais pas seulement de manière individuelle, mais même de manière systémique, c'est-à-dire même, on en reparlera peut-être dans le détail, dans l'orientation des élèves, dans les représentations, dans les histoires racontées, en fait, l'école produisait et diffusait des discours et des pratiques racistes. Et les professeurs de l'éducation, enfin, nous, quand on était avec les collègues dans le syndicat ou même dans les salles de... dans la salle de prof, en fait, ne se questionnaient pas sur ces questions-là, alors qu'on pouvait voir, par contre, sur le sexisme que commençait à avoir émergé dans les années, du coup, dans les années 2010, hein, puisque c'est à ce moment-là qu'on a commencé nos carrières enseignantes. Enfin, moi, c'était en 2011, Karim, c'est quelques années après. On voyait que sur le sexisme, il y avait des petites choses qui bougeaient, mais sur la race, rien du tout, quoi. En gros, tout va bien. Et nous, c'est à partir de ce constat-là qu'on a dit, en fait, il faut sortir de cette posture de l'antiracisme moral, voilà, que ce sont les élèves qui s'insultent, voilà, d'insultes racistes, etc. Donc, produisent mais que nous, on ne produit pas de racisme à l'échelle systémique. Et c'est comme ça que, je pense, que c'est ça la rupture qui s'est faite dans le syndicat sur la question de l'antiracisme, c'était de sortir de la, voilà, de cette posture-là, de, en fait, c'est parce qu'on est issu d'éducation, donc dans nos principes, on est antiraciste, donc tout va bien. On gère cette question. Et à partir de là, on a pensé des stages sur le racisme à l'école avec deux volets. Un volet théorique, on se disait, mais en fait, les collègues, ils y connaissent pas grand-chose, en fait, sur les questions de l'antiracisme et de comment l'école produit du racisme à différents niveaux, dans le premier degré, dans le second degré, dans les parcours des élèves à l'école primaire, dans leur parcours d'orientation. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sociologues qui participent à cet ouvrage. Et en même temps, aussi, comment avoir des pratiques pédagogiques véritablement antiracistes dans le quotidien de nos classes, comment avoir une pédagogie véritablement antiraciste et pas être dans le déni de ok, tout va bien, moi je vais faire un cours sur le racisme et en fait je pense que tout va bien, alors qu'en réalité c'est pas du tout ce qui se passait, nous, dans nos expériences quotidiennes qu'on a un peu partagées, bah, justement quand Karim parlait du camp d'été décolonial. Donc je pense que c'est ça, c'est cet endroit-là de rupture qu'on a eu. Et voilà, après. Et du coup, on a fait trois stages en 2017, en 2019 et en 2022, avec toujours ces deux volets-là. Et aussi avec l'idée que, comme l'a dit Karim, que aussi ce qui était important aussi à dire, que ce soit dans le syndicat ou même dans les salles des profs, c'est-à-dire que les questions antiracistes étaient portées par des personnes blanches, n'étaient pas portées par les personnes concernées dans le syndicat. Du coup, c'est ça aussi qu'on a changé en disant, bah, en fait, les personnes concernées, les personnes non blanches, produisent des discours antiracistes qui ne sont pas visibles et qu'on doit visibiliser. Et c'est pour ça qu'aussi, on a beaucoup travaillé sur des intervenants, intervenantes non blanches qui travaillent dans le champ de la sociologie, du champ de la sociologie de l'éducation, des militants et militantes. C'est ces deux choses-là qui ont beaucoup changé avec cette commission.
Et je pense qu'on pourra un peu en reparler plus tard, parce que avec les questions que vous posez à la fin. Mais en fait, au sein du syndicat, il y a trois commissions. Il y en a une LGBTQIA+, et une autre antisexiste. Et en fait, elles sont non mixtes de fait. Voilà. Donc dans l'antisexisme, il y a que des personnes, en tout cas, qui s'identifient comme... Et pareil pour LGBTQI. Alors que dans la commission antiraciste, voilà, on s'est vraiment posé la question de pourquoi il y avait autant de personnes blanches au sein de la commission antiraciste. Voilà.
Et juste pour ajouter, puisque du coup, comme ça, on raconte cette historique de la commission. Donc au début, notre commission antiraciste, elle était... Bon, du coup, au début, avant qu'on arrive, c'était quasiment que des personnes blanches qui parlaient de ces questions-là. Ensuite, nous, on est arrivés... un peu progressivement, hein, c'est pas on est tous arrivés, c'est progressivement on est arrivé de plus en plus de personnes non blanches. Et ensuite, suite à un certain nombre de choses, la commission est devenue progressivement non mixte. Et ça aussi l'évolution qu'il y a eu dans cette commission, c'est-à-dire le premier stage, il s'est fait, il a été porté d'abord par des femmes blanches, et ensuite il y a des personnes non blanches qui ont dit on vient et on a travaillé ensemble. Ensuite, le deuxième stage s'est construit avec majoritairement des personnes non blanches et quelques personnes blanches. Et le dernier stage, il était en auto-organisation. Non blanche, voilà.
Pardon. Du coup, très rapidement, comment ça s'est fait, cette évolution-là, comment elle s'est faite concrètement? C'est une question qu'on peut se poser, c'est-à-dire ça se fait jamais naturellement.
Ça s'est fait. On va dire que quand même, en tout cas pour qu'elle, le moment de l'auto-organisation non mixte, ça a été porté dans un conflit syndical, enfin dans une rupture syndicale, dans une AG, etc. Suite à un souci particulier qu'on a eu avec un camarade et qu'on a dit en ce moment-là. Vous voyez, enfin, à un moment donné, c'était toute la question. Ce qui s'est posé à ce moment-là, c'était la question de l'alliance avec des personnes blanches et de dire, à un moment donné, être allié, ça veut pas dire faire à la place d'eux. Voilà. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas encore acquis. Du coup, je ne sais plus quand ça a eu lieu, c'était en 2020 qu'on a eu ce conflit-là. Et en fait, de fait, c'est devenu non mixte à ce moment-là. C'est pas avoué, mais c'est pas forcément un état, c'est pas quelque chose qui sera définitif, ça, c'est pas quelque chose, mais c'est aujourd'hui tel que ça s'est organisé dans notre histoire, ça s'est fait comme ça.
On va peut-être en venir justement à l'écriture du livre, enfin à la création du livre. Alors, d'où ça vous est venu? Parce que entre une commission et un livre, bon, y a un pas assez important. C'est la première fois, hein, qu'il y a un livre en fait qui porte ces questions-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forte assise théorique, mais il y a aussi en fait des fiches pratiques dont les collègues, alors je dis collègues parce que moi je suis enseignant en l'occurrence, peuvent se servir. Donc comment vous est venue l'idée de faire ce livre-là?
Alors en réalité, c'est une proposition de la maison d'édition Shed Publishing qui est venue vers nous en 2020, juste après le confinement, quand la maison d'édition s'est montée. C'est un des premiers projets que Lydia, notre éditrice, voulait porter, puisque nos stages, on en reparlera peut-être plus tard dans la conversation, notamment celui de 2017 a eu beaucoup d'écho national, puisque nous avons eu une plainte face au ministre Blanquer, etc. Et elle est venue nous voir en disant, puisque du coup l'ambition de Shed Publishing, notamment dans sa collection Arpentage, c'est de faire des textes collectifs, hein, de travailler sur... Donc l'idée, c'était j'aimerais archiver ce moment politique, puisque ce moment politique, il est pionnier. Et du coup, comment on peut faire pour archiver ce moment-là? À partir de là, on a travaillé sur comment archiver des choses qui se sont passées dans le passé. En réalité, il y avait eu des enregistrements, des notes. Et à partir de là, on a construit ce projet. Ensuite, il y a eu toute la question. On a dit, mais en fait, on est des pédagogues, parce qu'on le dit peu, mais on est des syndicalistes, mais aussi des pédagogues. On est un peu entre les deux pour beaucoup d'entre nous dans le collectif. Du coup, on a dit, mais ce serait bien aussi que ce ne soit pas que les plénières, mais aussi des ateliers pédagogiques. Et c'est comme ça qu'on a construit ce livre. Et ça a mis 3 ans de retrouver, puis de reformuler, de prolonger aussi. C'est-à-dire il y a aussi tout un aspect où on a prolongé la réflexion, parce que passer de l'oral à l'écrit, c'est pas pareil. Voilà.
Non, j'ai pas grand-chose à ajouter, mais juste, je pense que, enfin, c'est important de le dire, mais ça retrace vraiment les archives des 3 stages, pas de manière exhaustive. On a dû faire des choix aussi. Il y avait d'autres ateliers pendant les stages qui n'ont pas forcément eu l'occasion d'apparaître dans le livre. Voilà.
Merci. On va rentrer plus en profondeur sur le contenu du livre. Et je vais commencer par toi, Karim, si tu es OK. Tu as co-écrit parmi les articles de la commission, tu as co-écrit un article en particulier qui s'appelle « Construire une pédagogie antiraciste pour les plus petits », parce que tu es professeur d'école. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, au quotidien, tu instaures une pédagogie antiraciste pour les plus petits, et j'aimerais que tu reviennes sur tes réussites et aussi les difficultés, s'il te plaît.
Ok, ça marche. Alors non, je vais pas tout dire parce que sinon personne va acheter le livre, ce serait trop simple, donc désolé, mais je veux bien faire mais je veux bien essayer de faire un teasing. On va essayer de faire un teasing dans ce cas là donc en fait avec une autre collègue avec qui je travaille vraiment en collaboration, qui est aussi dans le premier degré. Donc, je précise que je travaille à Saint-Denis, dans le premier degré, depuis à peu près 10 ans, et que je travaille en plus, et j'aime bien le préciser aussi, parce que c'est important, dans un grand quartier de Saint-Denis, une grosse cité, quoi. Donc je préfère le préciser, avec majoritairement des élèves racisés, donc 99% à peu près. Je suis en pédagogie freinée aussi, il faut le dire, pédagogie freinée alternative. Et du coup, voilà, c'est aussi important parce que ma réflexion, elle vient un peu aussi de là. Donc, au départ, j'ai commencé en pédagogie freinée et j'allais dans les ateliers freinée et je me suis aperçu que déjà tous mes camarades étaient majoritairement blancs et blanches et que toutes les questions étaient les questions sociétales étaient posées, donc sur les questions de classe, les questions de genre, un peu queer, mais bon, c'est encore pour moi c'est encore en construction, c'est pas encore vraiment là. Et par contre, sur les questions de race, il y avait rien du tout, alors qu'on est quand même à Saint-Denis dans le 93, comme je disais juste avant, et qu'on travaille majoritairement avec des personnes concernées par le racisme. Tout le monde est concerné, mais en tout cas qui subissent le racisme. Peut-être que je vais juste dire une petite anecdote rapide avant d'expliquer un peu plus. J'avais des élèves de CM1 et en CM1, on est censé en histoire faire la colonisation. Chapitre qui s'appelle Le temps des grandes découvertes, hein, avec Christophe Colomb, etc. Donc déjà, premièrement, je me dis chaud. Enfin, vraiment chaud. Comment je fais pour travailler ça alors que vraiment... au début, quand on est stagiaire, on a énormément de travail. Et en fait, c'est compliqué de à la fois préparer ses cours, réussir à gérer une classe et en même temps trouver des ressources adéquates pour les élèves en question alors qu'il y en a très peu. Mais ça, je vais y revenir. Et j'ai un élève un jour qui m'a dit mais en fait comment ça se fait qu'on n'ait que des noirs et des arabes dans la classe, que tous les profs sont blancs sauf vous? Là je me dis je vais pas lui répondre comme ça. Voilà, c'est ça. Quand on commence on a 22-23 ans et je me dis waouh, je lui ai dit je t'assure que je vais essayer d'y répondre cette année, mais pas là en 2 minutes, c'est juste pas possible. Donc grosse réflexion, je me dis faut absolument en fait que je travaille tout ça, parce que les gamins en fait ont vraiment des questions, et des tout petits et petites ont des questions sociétales sur sur les questions de genre, de classe, de race, etc. Et après par rapport à plein d'autres choses, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon c'est un peu long, je me suis dit qu'il fallait que je travaille sur 3 axes principalement. Le premier axe pour moi, c'est la question de la représentativité positive. À travers les livres, à travers les histoires qu'on propose, à travers les manuels scolaires qu'on choisit ou qu'on choisit pas justement, ou en tout cas on essaye de faire des mix de plein de manuels différents pour ne pas avoir justement toutes ces questions là en fait racistes, parce que pour moi les manuels scolaires qu'on a majoritairement sont racistes. Je prends un exemple, hein, mais en fait les personnages racisés, il y en a de plus en plus, mais les personnages racisés dans les manuels scolaires sont en général des personnes qui n'ont pas les meilleurs postes en termes de métier, ce qu'on appelle meilleur dans la société, hein, vous comprenez, sont les personnes qui l'enseignant, le médecin, etc. ça va être les personnages blancs et pas les personnages racisés. Donc avec tout ça, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'apporte aux élèves une représentativité plutôt positive d'elles et eux-mêmes, et donc ça passe par les manuels scolaires, ça passe par les sorties scolaires, ça passe par le fait que j'invite en fait. Je fais exprès d'inviter, par exemple, des comédiens, des comédiennes racisées. Je fais exprès d'inviter des personnes qui sont issues de... Peu importe le métier, mais en tout cas de valoriser un peu et de montrer que c'est possible. sans être dans la méritocratie non plus, mais bon, ça, on peut en parler un peu plus tard aussi. Voilà, donc essayer de valoriser à ce niveau-là. Il y a plein de livres, en fait, de plus en plus. Il y en a plein. On a une bibliographie, justement, dans le livre pour les plus petits et les plus petites qui permet, en tout cas, de mettre un peu en valeur les personnages racisés. La deuxième chose, c'était de faire lien avec les familles. Pour moi, ce qui a été super important, parce que quand je suis arrivé un peu dans cette école-là, j'ai vu vraiment un gros mur entre les familles et les enseignants et enseignantes majoritairement blanches. C'est vraiment, je vous donne votre élève à la fin à 16h30 et il y a très peu de liens. Je précise aussi que dans l'école dans laquelle j'étais, par exemple, il n'y avait pas de kermesse parce que 5 ans auparavant, il y avait eu une bagarre entre deux adultes. De parents et que du coup ils avaient décidé de ne plus faire de kermesse parce que je vais dire avec les mots, mais pour moi c'était vraiment c'est des sauvages, donc en fait on fait pas, voilà. C'est à dire que et je précise aussi que c'est une école dans laquelle il y a 750 élèves, voilà, famille, oui, c'est énorme aussi. Quand je disais gros quartier à Saint-Denis, je parlais de ça justement. 750 élèves, et si je prends la maternelle, 1000 et quelques. Et donc, du coup, voilà, enfin, juger toutes les familles sur une bagarre qui s'est passée il y a 5 ans, je trouvais ça quand même assez problématique. Et donc, du coup, de mon côté, ce que j'ai essayé de faire, c'est de travailler en lien avec les familles, avec les APC, qui sont des activités complémentaires pédagogiques, et de créer des jeux avec les familles pour pouvoir questionner, en fait, leur parcours migratoire, pour, pas que, hein, d'ailleurs, leur histoire, parce que... On n'a pas forcément de parcours migratoire pour être racisé en France, pour mettre en valeur un peu leurs connaissances. Et donc du coup, toute l'année, on a créé un jeu avec toutes les familles qui s'appelle, c'était un trivial poursuite, avec toutes les connaissances familiales que les parents nous avaient apportées. Et ce qui a permis déjà premièrement de valoriser en fait les connaissances des parents. Il y a des élèves qui m'ont dit... mais en fait, mes parents, ils connaissent trop de trucs, ils vous ont appris plein de trucs sur l'histoire coloniale du Mali, par exemple. Je dis, oui, moi, j'avoue, je savais pas, en fait. Vraiment, il y a des choses que je ne maîtrise pas. Ah ouais, vous saviez pas ça. Et en fait, ça désacralise aussi le rôle de l'enseignant ou enseignante, et ça permet de dire que, en fait, on a tous et toutes des choses à apprendre des uns des autres, et c'est un peu ce qui est proposé en pédagogie frère. Je perds un peu le fil, désolé. Oui, et bon, voilà. Donc, valoriser un peu les histoires familiales et les connaissances des familles, mais aussi permettre de créer du lien entre les parents et les enfants, parfois sur ces questions-là, qui peuvent être des questions taboues. Et je le dis en connaissance de cause. Je sais que le parcours migratoire de mes parents et de mes grands-parents a été un tabou pendant X années, et que c'est un sujet parfois très complexe à évoquer avec nos familles et nos ancêtres, quoi. Donc, voilà. Donc, c'était ces deux premiers axes. Et le troisième, pour moi, et c'est souvent... le débat qui est un peu plus compliqué avec les gens, c'est d'apporter un vocabulaire et une connaissance, et en tout cas un vocabulaire sociologique aux enfants dès le plus jeune âge. Voilà, moi je suis pas là pour dire non, faut pas leur parler de ça, faut pas leur parler de ça, faut pas leur parler de qu'est-ce que c'est que le racisme, le classisme, etc. Je pense qu'il est très important de leur apporter les outils dès le plus jeune âge pour pouvoir en fait être armé ensuite et pouvoir savoir comment faire. Et pour ça, ce que je propose à mes élèves, c'est de devenir des apprentis sociologues, en fait. Parce que je pars du principe que, comme je suis en pédagogie freinée, c'est un peu plus horizontal. Je ne vais pas dire que c'est horizontal, parce que ça ne l'est jamais en réalité, mais c'est un peu plus horizontal que la pédagogie classique. Et donc, du coup, moi, je leur propose de passer par des quads neufs. Donc le quad neuf, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un entretien du matin où les élèves soit apportent un objet à expliquer face à leurs camarades, ou soit veulent apporter un sujet en question. Moi, mon rôle, c'est seulement le rôle de médiateur. Et du coup, ce que j'essaye de faire en général, c'est de poser au moins une question, avoir le droit de poser une question qui va forcément amener à questionner des questions de genre, de classe, de race. Et à partir de ça, je ne donne pas de réponse. Direct. Je dis, on va questionner ça. Par exemple, je vais donner un exemple, ça sera plutôt sur le genre. Il y a eu des questions de mes élèves sur l'espace de la cour de récréation où il y avait certaines élèves qui me disaient bah, en fait, le foot pose problème parce qu'on n'a pas d'espace pour nous, tout le monde joue au foot, nous on est encore sur les coins, on se prend des balles, etc. Et d'autres, les personnes qui jouent au foot, en tout cas, on dit non, c'est pas vrai, on prend pas beaucoup de place, c'est elle, etc. Et donc, du coup, ce que j'ai proposé aux élèves, c'est de faire une enquête sociologique sur ça. Pendant un mois et de leur dire bon bah ok bah on n'est pas d'accord, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'observer la cour de récréation tous les matins, toutes les après-midi au troisième étage de l'école, et on va faire des dessins, faire des schémas, des croquis, etc. Pour pouvoir en fait voir si effectivement il y a un problème de gestion de l'espace en fonction du genre. Et au bout des 4 semaines, on est revenu sur les croquis, qui prouvaient qu'effectivement, il y avait un problème d'espace au niveau du genre. Et du coup, je dis, bah, OK, donc qu'est-ce qu'on fait? On trouve une solution. Quelles sont vos solutions? Bah, on supprime le foot. C'est OK, on supprime le foot. Et on a autorisé ensuite les jeux de balle, mais à la main, parce qu'effectivement, on sait que bah, quand on est plus entraîné à jouer du foot, bah, forcément, on y joue mieux. Donc... voilà, c'est pas inné, hein, c'est vraiment, je pense, c'est l'entraînement. Et voilà, et donc j'ai essayé de faire les mêmes choses avec les questions raciales aussi. Et juste pour finir sur ça, en histoire géo, pareil, essayer de changer les programmes, enfin de changer les programmes, de voir autre chose et de prendre des textes de personnes, parce qu'il y a très peu de choses. Là, c'est les limites. Il y a très peu de choses qui sont possibles pour les plus petits et plus petites. Et donc, du coup, d'essayer de retravailler des textes pour adolescents, adolescentes, et les simplifier pour que les plus petits et les plus petites puissent les comprendre. Voilà, j'ai fait un peu long. Donc,
Merci, c'était hyper riche, hyper intéressant. Merci, Karim. Manel, toi, parmi les articles que tu as coécrits, il y a celui qui s'appelle « Faire circuler Bellux en montant un club égalité dans ton établissement ». Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, comment tu mets en place une pédagogie antiraciste pour les adolescents au quotidien? Pardon, excusez-moi. Quelles sont tes réussites et, pareil, les difficultés, s'il te plaît?
Ok. Moi, je suis professeure d'histoire-géographie. J'ai d'abord été en collège et ensuite, je suis passée au lycée. Et en fait, j'ai écrit 2 articles dans leur livre. J'ai écrit celui avec Maliga, ma collègue d'SES, sur le club. Et j'ai aussi écrit un article sur l'histoire-géographie dans ma pratique quotidienne. Comment faire un cours d'histoire-géographie qui intégrerait des questions décoloniales, antiracistes au quotidien. Donc, je vais peut-être parler d'abord du club et puis rapidement, je parlerai un petit peu quand même en classe au quotidien aussi, en histoire, géographie, éducation, morale et civique, parce que je fais les trois et je donne des pistes pour les trois. Alors, le club... le club, en fait, c'est une initiative que j'ai commencé quand je suis arrivée en lycée, car j'ai eu l'occasion, parce que ça faisait très... déjà, parce que quand on a un public de lycéens, lycéennes, on se retrouve avec des élèves entre 15 et 18 ans. Et moi, j'ai commencé le lycée après MeToo, après aussi, du coup, ils ont connu aussi, après George Floyd, après le confinement. Donc, des élèves qui, quand même, ont accès à un vocabulaire, à une actualité, qui se posent des questions, qui ne sont pas d'accord sur toutes ces questions qui nous traversent. Et des élèves, par contre, qui ont envie de s'engager sur ces questions, vraiment. Et il y avait cette question de dire mettre le cadre pour permettre à des élèves qui ont envie de s'engager sur ces questions et de véritablement s'engager, pas seulement juste, mais vraiment dans le quotidien, s'engager sur des questions contre les discriminations. Et ma collègue Maliga, que j'ai connue quand on était décoloniale, qui est professeure d'SES, et à un moment, elle cherchait un poste. Et ça, c'est une technique qu'on donne aussi dans le bouquin, dans un article qui s'appelle « Comment se soutenir entre personnels racisés ?» qui cherchait un poste, et je lui ai dit « Mais en fait, je pense qu'il y a un poste chez moi qui va s'ouvrir, vas-y, viens, et puis comme ça, on fera des projets ensemble. » Et du coup, quand elle est arrivée, il nous a fallu quand même un an, parce que c'était au moment du confinement, donc bon, c'était un peu compliqué d'enseigner, mais on a construit ce projet en se disant « on va faire un club égalité », parce que moi, je savais que ça existait dans d'autres établissements, notamment d'une copine qui avait monté que sur le sexisme, mais un club égalité dans un collège à Garges-lès-Gonesse. On les interview d'ailleurs dans notre article. Et je sais que pour monter ce type de projet dans un établissement scolaire, donc un lycée, c'est 1700 élèves, 120 profs, etc., vous ne pouvez pas être tout seul. C'est très difficile de porter des questions pour l'égalité, bizarrement, hein, c'est très difficile de porter des questions pour l'égalité et contre les discriminations de manière visible si vous êtes tout seul et notamment si vous êtes une femme non blanche. C'est très, voilà. Vous êtes... Donc, du coup, je me suis dit, il faut le faire en équipe, en bande organisée un petit peu. Sinon, c'est un peu dur. Et donc, comme elle est arrivée, on s'est dit, on va faire ce club. Et en se disant, parce que nous, on n'a pas seulement la perspective féministes, contre les LGBTQ-phobies qui sont un peu portées par l'institution quand même, mais du coup se dire comment on intègre aussi la question de race là-dedans, qui est, elle, invisible. Aussi comment le faire passer. C'était aussi le truc de comment faire passer ça à l'institution. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est que stratégiquement, quand même dans le calendrier scolaire, il y a des dates de journée de lutte nationale et internationale contre les discriminations qui sont, si vous recevez les mails, s'il y a des professeurs, on reçoit à Secréteil, tel jour, il y a la journée, mais qui ne sont jamais vraiment mises en place dans les établissements, qui n'existent pas réellement. On s'est dit, bah, c'est ça qu'on va faire vivre, on va faire vivre ces journées de lutte, mais comme des journées de lutte. Et la première action qu'on a menée, bah, d'ailleurs il y en a une qui, bah, ce soir, elles sont en train de le faire en plus dans le club, c'est pour le 25 novembre. Du coup, on s'est dit, bah, nous on a déjà collé, hein, moi j'ai déjà fait des collages, etc. On s'est dit, bah, on va montrer aux élèves comment faire des collages sur les questions des violences sexistes et sexuelles. Et du coup, les élèves ont fait des recherches, ont choisi une phrase et on est allé voir la chef d'établissement, on lui a dit, on veut faire un collage pour faire vivre cette journée. Et on va faire, est-ce qu'on peut faire un collage quelque part ? Elle a dit, ok, moi, alors, c'est vrai qu'il faut souvent avoir un chef qui vous suit sur ça quand même. Et donc, moi, sur ça, j'ai de la chance et c'est pour ça qu'il y a toujours des limites. Ça, c'est la première limite, c'est où vous travaillez, avec qui vous travaillez. Moi, il y a 2 ans, j'aurais pas pu faire ça avec mon ancien chef. Avec cette chef-là, je peux le faire. Donc, du coup, bah, comme je peux le faire, j'investis. Et du coup, bah, on a fait chaque année des collages le 25 novembre. C'est la 3e année, demain il y a un collage. D'ailleurs, ça, c'est quoi cette année, ils ont choisi en plus ça va faire débat, c'est violer une femme ou un homme, c'est criminel, pas passionnel. Ça sera affiché demain dans l'établissement. Et du coup, la première fois, ça a été quand même les élèves arrivent, ils voient ça, ils font waouh, c'est quoi ce truc, etc., etc. Et sur les questions de race, donc on a mis plus de temps parce qu'on s'est dit, ben, puis en fait on est par rapport aux élèves, hein, les élèves sont c'est eux qui drainent un petit peu le club, hein, parce qu'il y a l'idée que c'est un club horizontal, c'est pas les profs qui décident. Mais progressivement, on est arrivé sur les questions de race. Et l'année dernière, on a organisé deux choses. L'année dernière, on a organisé un ciné-débat avec 2 réalisatrices non blanches qui ont fait des courts-métrages traitant des violences policières, hein, pour un, et des violences pénitentiaires pour l'autre. Et ensuite, on a organisé un débat avec les réalisatrices. Ce qui est pas mal quand on utilise le biais de l'art, c'est que c'est pas forcément le prof qui parle de ces questions. Du coup, ça nous expose pas, puisqu'on invite les artistes à parler de leur œuvre cinématographique ou de leur œuvre artistique. Et en même temps, c'est très valorisé d'apporter une ouverture culturelle aux élèves. Et nous, on choisit les artistes en fonction aussi de ces critères-là, c'est-à-dire des critères, on se dit, par exemple, cette année, nous, on a tout un projet cette année sur les... On voudrait travailler sur les mémoires de l'esclavage et surtout des luttes pour les abolitions et les résistances. Et là, on va inviter des comédiennes à venir faire une pièce de théâtre dans le lycée en mois de mars, normalement. Et c'est comme ça qu'on construit, en fait, là, stratégiquement, en fait, parce qu'il y a tout un... Parce que la question de la race, quand même, est une question très difficile à apporter dans une institution qui ne veut pas la voir. On en reparlera plus tard. Donc, du coup, c'est comment trouver des interstices, des brèches pour traiter de ces questions avec les élèves. Autre chose qu'on fait dans le club, et après, j'arrêterai sur ça, c'est que on s'est aussi dit... Parce qu'il y avait une de tes questions, c'était sur la question théorique, comment apporter de la théorie à des élèves parce que c'est important d'apporter de la théorie aux élèves, mais comment le faire ? Et entre les grandes journées de lutte, parce que du coup, dans ces journées, on est aussi allé, on a manifesté pour le 8 mars, enfin, on a fait beaucoup de choses avec les élèves. Mais quand on a des moments de creux, eh bien, on fait des séances d'arpentage avec les élèves. L'arpentage, en fait, c'est une pratique... de culture populaire où en fait bah, vous prenez un livre et puis vous déchirez des pages et puis vous donnez à chacun des élèves et chacun doit lire des textes Et ensuite, on fait une restitution collective. Et c'est pour ça que notre article s'appelle « Faire circuler Bell Hooks », parce que c'était ça. Puisque du coup, quand on a choisi notre premier reportage, bon, du coup, moi, je suis très inspirée par la pédagogie critique de Bell Hooks. Je pense que c'est celle qui m'inspire le plus dans mes pratiques aujourd'hui. Et on s'est dit, Bell Hooks, elle est quand même très accessible à lire, en tout cas avec des élèves. Et bah, comment faire découvrir Bell Hooks ? Et on s'est dit, bah, on va arpenter Bell Hooks avec les élèves. Voilà, c'est comme ça que c'est né, en fait, cette idée du club. Et très rapidement, parce que, comme ça, je le dis, l'autre volet, et ça, c'est lié à des ateliers dans les stages. Donc, l'article que j'ai écrit sur l'histoire géo, c'est à la fois une restitution de certains ateliers que j'ai menés sur comment mettre en œuvre une histoire décoloniale en contexte français, dans son quotidien, et après avec quelques prolongements. Et donc c'est un article qui n'est pas du tout un article de manuel scolaire, parce que c'est pas comme ça, mais c'est comment trouver des pistes pour, bah, pour le faire, en fait, pour se lancer, pour déjouer, en fait, le roman national qui est un peu dans les... Parce que quand on est prof d'histoire, bon, c'est quand même, bah, c'est très compliqué en termes de représentation, de récit. Et donc, il y a plusieurs choses. Par exemple, on a construit ensemble une grille d'analyse des biais racistes des manuels scolaires qui est dans le livre. On a aussi, moi j'ai construit tout un glossaire que j'appelle décolonial, c'est-à-dire comment nommer depuis le point de vue des subalternes des événements historiques qui sont nommés du point de vue des dominants. Je vous donne un exemple, c'est la guerre d'Algérie. Parce qu'en fait, dans les manuels scolaires, il y avait toujours écrit la guerre d'Algérie. Et c'est marrant, parce que pendant très longtemps, j'ai enseigné la guerre d'Algérie, parce que je ne faisais pas attention. Puis en fait, à un moment, j'ai beaucoup voyagé dans le monde arabe, parce que je parle arabe. Et du coup, ce n'est pas du tout comme ça. Et en fait, quand je suis revenue, j'ai fait « Ah non, mais en fait, en arabe, ça ne se dit pas comme ça. » Et en fait, c'est comme ça que j'ai eu le déclic de me dire « Non, par contre, les Algériens, ils ne disent pas comme ça. Ils disent révolution algérienne ou guerre de libération. » Et du coup, ça change tout, en fait, de nommer depuis le point de vue des subalternes. Donc après... Quand on commence, bah après, il y a plein de mots à décoloniser. Hein, je vous dis, j'ai pas fini. Moi, je dis toujours que je fais une pédagogie ongoing, c'est-à-dire elle est toujours en construction. Et aussi, il y a tout un article que je propose, enfin, toute une partie que je propose sur la géographie, parce que moi, j'aime beaucoup la géographie. On parle toujours de l'histoire, on parle pas de la géographie. Or, la géographie est très colonialiste. Et ce qui est intéressant, c'est que la géographie, c'est une discipline qui permet de réfléchir à la colonialité du pouvoir maintenant. C'est-à-dire quand on fait des thèmes sur le développement, sur la mondialisation. Moi, quand même, mes premières réflexions sur les programmes scolaires, c'est des élèves en géographie qui me disent pourquoi l'Afrique, c'est toujours pauvre, pourquoi l'Afrique est pauvre, pourquoi on est jamais dans les... pourquoi on est toujours pauvre. Et c'est vraiment les questions que les élèves me posent constamment en géographie. Et donc de dire bah, comment, en fait, j'explique pourquoi, mais en même temps, je dis, mais il n'y a pas que ça. Enfin, il y a des récits invisibles, il y a des économies invisibles. Enfin, et comment, en fait, on montre autre chose. Et du coup, il y a tout un travail sur la cartographie, comment on représente le monde, pourquoi les cartes qui sont dans les livres, c'est toujours des cartes échelle Richter avec l'Europe toute grande et l'Afrique plus petite cannelée. Et ça, c'est des discours aussi. Donc, par exemple, faire des séances comme ça, c'est pas compliqué avec des élèves. C'est une introduction en début d'année et vous montrez plein de cartes et vous montrez des cartes retournées et les élèves, ils font « Ah ouais, c'est comme ça, et pourquoi c'est plus petit ?» Et en fait, c'est pour montrer aussi que tout ça est un discours et que quand on montre que c'est un discours, et ben, en fait, on peut démonter les discours. Voilà.
Bon,
merci alors, Manel.
Ouais, merci. En fait, vous avez, comment dire, vous avez parlé de beaucoup de choses qui sont intéressantes. Mais là, on est, alors, on va passer en fait à des thématiques plus générales et peut-être que lors des discussions, en fait, on pourra peut-être revenir sur les points que vous avez mis en avant. Alors déjà, la première chose, c'est que vous avez avant ce livre organisé 3 stages et vous avez eu 3 plaintes. Donc, j'imagine que ça doit être un peu fatigant. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé et de quoi, en fait, ces plaintes sont le nom, en fait ? Selon vous, je veux dire.
Alors, les plaintes, bah, déjà, je vais les citer, parce que déjà, peut-être que tout le monde ne sait pas toutes les plaintes. Donc, on a eu, en 2017, une plainte du ministère de l'Éducation nationale pour diffamation pour l'expression « racisme d'État ». Ensuite, c'était donc classé sans suite, ou non bleu, je ne sais plus, classé sans suite. Ensuite, c'était discrimination pour les personnes non blanches parce qu'on avait organisé des ateliers en non-mixité personnes racisées. Et ça, c'était les 2 plaintes qui ont été classées. Ensuite, on a eu une plainte de 5 députés républicains qui demandaient en fait surtout la dissolution de notre syndicat Sud Éducation 93 pour non-respect des valeurs de la République. Cette plainte-là, elle est encore en cours. On a gagné en première instance. en juin 2022 et on a l'appel, parce qu'ils ont fait appel bien sûr, on a l'appel probablement cette année, mais on avait gagné sur le fond, donc, sur, donc bon, voilà, ça c'est les plaintes. Ces plaintes-là, bah, du coup, elles ont été portées par Jean-Michel Blanquer. Elles ont été, donc, quand même le ministre qui nous a fait plein de choses magnifiques pendant ces 5 ans. Et ensuite, par les députés républicains, donc par quand même un camp réactionnaire. Même si ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas des responsabilités aussi dans le camp progressiste, hein, c'est pas ça, mais en tout cas, c'est a été porté par ces personnes-là. Et clairement, c'était clairement parce que déjà, il y a un déni sur la question de la race en France. Donc, quand vous portez la question, ça, tout de suite, c'est de la conflictualité politique. On ne peut pas en parler de manière apaisée. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Et clairement, il y avait aussi une volonté de censure ou de faire en sorte qu'en fait, on arrête ces stages, qu'on perde du temps, parce qu'on a quand même perdu du temps et de l'argent. Et l'épuisement, c'est quand même... Du coup, c'est 2017, on est 2023, ça fait 7 ans et on est encore en procédure, en fait. Et donc, il y a aussi de l'argent qui est dépensé syndical pour lutter contre la répression étatique sur les questions, sur la question, en fait, du racisme. Et ce qui pose problème, c'est que nous, on pose la question de l'antiracisme politique et donc de l'État qui produit, en fait, de dire bah, c'est l'État qui produit la discrimination raciale à l'école, parce que nous, c'est le champ dans lequel on travaille. Et c'est clairement ça qui pose problème, c'est d'avoir ce discours de vérité, moi je dis, enfin vraiment, d'avoir ce discours de vérité et de dire cette vérité, que cette vérité n'est pas entendable, n'est pas acceptable, doit être tue, et par tous les moyens possibles. Et donc, notamment par la répression. Voilà, c'est clairement, je pense, ça qui se joue dans ces plaintes. Et bon, après, nous, on a eu ça, mais il y a eu d'autres... Je le dis parce que nous, c'est plus difficile, parce que nous, on est dans le champ de l'éducation et plus attaquable, on est fonctionnaire, on peut perdre, on peut être évoqué. Enfin, il y a quand même des... Enfin, peut-être Karim, peut-être il en parlera aussi, parce qu'il a été dans une école qui a été aussi très attaquée parce que ce sont des professeurs qui étaient engagés sur ces questions-là, sur les questions contre les discriminations. Et en fait, c'est vraiment cette question-là de quand on est dans le camp progressiste, qu'on veut s'engager sur ces questions, en fait, aujourd'hui, ce n'est pas entendable, ce n'est pas acceptable. Et pour maintenir, pour moi, clairement, c'est juste pour maintenir le privilège, maintenir la domination blanche. C'est tout un système qui s'organise pour ça. Voilà.
Je pense que juste pour rajouter quelque chose, ce qui est important, c'est de savoir que quand Jean-Michel Blanquer a fait son discours à l'Assemblée nationale, tout le monde s'est levé pour l'applaudir. Des camps d'extrême gauche ou dits extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Voilà, parce que tu ne l'as pas dit et c'est important de le dire. Il n'y a pas que les républicains qui se sont levés. Voilà.
Pas que ceux qu'on désigne comme réactionnaires. Vous avez parlé d'épuisement tout à l'heure, je vais revenir dessus. Et notamment quand le corps enseignant... dans sa globalité, se fait de plus en plus collaboratif. Je pense aux abayas, je pense aux signalements. On pourrait revenir sur les mini-végétariens, le voile. Enfin, on pourrait faire une liste comme ça, exactement, une historiographie des attaques racistes, raciales à l'école. Et je voudrais parler de comment vous vous défendez, comment vous vous organisez pour faire face à cet épuisement individuel quand on est seul ou pas beaucoup, en tout cas, dans son établissement scolaire et faire face au corps enseignant qui est compliqué.
Mais justement, en fait, là, tu soulignes un truc important, c'est quand t'es seul. Et en fait, nous, ce qu'on fait et ce qu'on propose ici dans le livre, c'est d'essayer de ne pas être seul. C'est-à-dire, c'est facile à dire, hein, mais d'essayer de trouver justement, et c'est ce que disait Manel juste avant, de trouver des collègues alliés. Pour revenir à un truc sur un... Bah, du coup, je pense que je vais parler personnellement pour le coup, mais moi, au début, j'ai commencé par faire de la pédagogie parce que j'avais la force, etc. Et finalement, je ne l'ai plus maintenant, donc je n'en fais plus. Mais moi, ce que je trouve important et intéressant, c'est d'essayer de trouver les alliés qu'on peut avoir. Je trouve que c'est, et je le redis encore, hyper important de pouvoir travailler avec les familles. Essayer de trouver aussi parmi les familles, il y a des personnes qui sont militantes, il y a des familles qui peuvent apporter des choses à l'école et proposer aussi des alternatives en fait à l'école à travers les conseils d'école, à travers les cafés des parents, etc. Je pense que c'est important de leur donner aussi de leur permettre en tout cas de connaître leurs droits, par exemple, de savoir qu'ils peuvent investir des salles dans l'établissement scolaire pour pouvoir discuter de sujets précis et de pouvoir en fait s'organiser en tant que parents au sein des écoles ou des collèges ou des lycées. Après, effectivement, la question de l'épuisement, comment dire ? Moi, personnellement, je sais que je suis en voie de reconversion pour le coup, parce que justement, en fait, toutes ces atteintes-là, ça a un poids sur ma santé mentale, enfin, sur nos santé mentales, parce que j'ai pas... Après, chacun le gère comme il veut ou comme il ou elle veut. Mais voilà, enfin, en tout cas, on sait que nous, ça nous a vraiment épuisés, que du coup, parce qu'en fait, les attaques, elles sont multiples. Il y a les attaques au sein du syndicat où on n'est pas forcément en accord avec les collègues blancs et blanches. On a nos attaques personnelles dans la vie privée, en fait, parce qu'on subit le racisme de manière générale tous les jours. On a les attaques au sein de la salle des profs et on a aussi les attaques, là, pour le coup, du ministre et d'institutions. Donc voilà, pour moi, je dirais que les deux choses importantes, c'est d'essayer de se regrouper, d'essayer de trouver en fait des personnes qui sont alliées, complices, etc. Et pour nous, ce qui est aussi important, c'est d'essayer de trouver des personnes blanches, en fait. De trouver des personnes blanches qui peuvent faire le taf pour nous quand on n'en peut plus. Parce qu'en réalité, on ne subit pas les mêmes choses quand on parle de racisme, en réalité. Enfin voilà, nous, on est concernés, donc c'est pas la même charge mentale et émotionnelle. Donc voilà, nous, ce qu'on a proposé, en tout cas, au sein du syndicat, c'est de pouvoir, en tout cas, demander aux personnes blanches de faire le boulot quand nous, on n'en peut plus. Je sais pas si ça répond à la question, mais...
Voilà. Moi, ce que je voulais aussi dire, mais peut-être qu'on en reparlera sur la question sur l'islamophobie, puisque du coup, aujourd'hui, il y a une espèce de multiplication des lois, enfin, il faut le dire, des attaques, des lois sur... Il y a eu la baïa, il y a les signalements. En réalité, il y a la stratégie générale. Voilà, moi, je dois faire ça. Et puis, il y a le moment où, en fait, on doit réagir. Et je pense qu'à ce moment-là, on fait un peu comme on peut. Et des fois, on va... pas réagir, mais il faut pas se sentir faut pas se sentir coupable de ne pas réagir à des moments stratégiques, parce que c'est tellement intense actuellement là, depuis en plus nous on le voit avec la multiplication des circulaires, enfin des circulaires, hein, elles changent tous les ans quasiment, donc des fois on peut pas réagir sur le coup, parce qu'on n'a pas les alliés, ou parce qu'on n'a pas la force, ou parce qu'on a appris l'histoire. Moi, ça m'est déjà arrivé d'apprendre l'histoire trop tard aussi. Enfin, je veux dire, y a aussi cette question de la circulation de l'information quand on a des élèves qui sont attaqués, ou des mamans d'élèves aussi, par ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les élèves qui sont attaqués sur la question de l'islamophobie. Et en tout cas, d'essayer d'être là comme on peut. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire, parce que comme il y avait toute la question de toutes les lois, je me disais que c'était important de dire... on fait comme on peut, et effectivement, la question de qui est avec nous, et avec qui on peut faire front et avec qui on peut faire le rapport de force, c'est aussi très important. Parce que quand on est seul dans une salle des profs, d'affronter tout ça, c'est vraiment... ça peut très vite nous... en fait, c'est très vite du burn-out en fait, professionnel, en fait.
Oui, alors moi, je voulais prolonger un petit peu cette discussion sur la question de l'islamophobie. Donc, depuis quelques rentrées, en fait, de façon systématique, il y a une mesure, une loi et des discours, en fait, surtout contre les musulmanes, les filles voilées. Et le souci, c'est que, en fait, il n'y a pour elles aucune organisation, aucun organisme, aucune association, ou quasiment pas, parce que, alors, il y en avait, mais elles se font. Voilà. Donc. Syndicalement, en fait, je trouve, alors moi je le dis d'autant plus tranquillement que je suis syndicaliste également, je suis à la CGT, et on est complètement à la rue là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne prend pas du tout la question de l'islamophobie au sérieux, et si bien que du coup, à chaque fois qu'il y a des événements en fait, systématiques, on n'est pas à la hauteur de l'enjeu et on ne protège pas. On ne protège pas, c'est-à-dire que les filles qui en sont victimes, en fait, ne trouvent pas chez le personnel éducatif, en fait, le soutien qu'elles devraient avoir. Et il existe un collectif intersyndical qui s'appelle PISA. Alors, c'est intersyndical, ça concerne trois organisations syndicales dans l'éducation, c'est la CGT, Sud et la FSU. Donc, les trois organisations dites les plus à gauche à peu près du spectre du champ syndical. ces trois organisations ont créé un fascicule « Comment lutter contre les idées d'extrême droite ». D'accord. Et dans ce fascicule, il n'y a aucune fois, ça fait 30 pages, il n'y a aucune fois le mot islamophobie. Voilà. Donc c'est dire, enfin voilà, c'est simplement pour montrer à quel point en fait cette question-là, elle est complètement, elle est complètement mise de côté. Et voilà, elle n'est pas prise au sérieux, si bien qu'à chaque fois qu'il y a des événements, on n'est jamais à la hauteur. Voilà. Donc voilà, c'était simplement pour étayer, c'est-à-dire que effectivement, il y a un épuisement de la part des personnels. Mais alors, que dire de la part des filles, et des personnes racisées, notamment musulmanes, quoi. Voilà.
Rapidement, en fait, effectivement, c'est la question qui clive le plus dans une salle des profs. Enfin, clairement, je veux dire, moi, j'ai régulièrement des propos. Des fois, je me mets pas à côté de gens à la cantine. Je vous le dis très clairement, je me mets pas à côté de gens à la cantine. Des fois, quand il y a trop d'actualité, pour pas entendre des trucs vraiment, parce que en fait, en plus, moi, j'arrive pas. Je suis très identifiée la prof antiraciste, donc du coup, en plus, voilà. Et d'ailleurs, c'est quand on a construit le premier stage en 2017. On s'est dit, nous, on va faire une plénière sur l'islamophobie. D'ailleurs, ça a été une des choses qui a été attaquée dans les tweets, notamment du Printemps républicain et de la LICRA, qui sont les premiers à avoir publicisé le stage, et ensuite qui ont tagué Blanquer, et après on a eu les plaintes. C'est parce qu'on avait invité à Marwan Mohamed, de l'ex-CCIF, qui n'existe plus, pour intervenir sur la question de l'islamophobie. Et on a chaque fois, on a fait sur l'islamophobie quelque chose. Et après, on a refait une plénière avec Siam Asbag et Nassira Aghenif, qui fait partie de ces choses qui ne sont pas apparues dans le livre. Mais pour nous, c'était extrêmement important que les collègues soient formés sur la question de l'islamophobie pour deux choses. Déjà, parce que pour beaucoup de personnes, il y a tellement un lavage de cerveau, je dis, c'est qu'ils pensent émanciper les jeunes filles, les jeunes femmes musulmanes, parce qu'elles ne portent pas le voile, donc elles sont émancipées, alors qu'en réalité, c'est un comportement sexiste raciste qui les oppresse, qui les empêche de s'habiller comme elles le veulent, comme elles l'ont décidé dans leur agentivité. Mais bon, et ça, c'est très difficile à déconstruire. C'est cette espèce de truc, en fait, républicain, cette espèce d'esprit des Lumières, parce que nous, on est pour la liberté des femmes, de toutes les femmes, et le voile, ça enferme. Voilà. Donc, et cette espèce de discours-là, c'est très difficile à déconstruire. Donc déjà, c'était très important pour nous que les collègues qui viennent à nos stages, ils soient obligés d'entendre une plénière sur ça à chaque fois. Ça, c'était important. Et ensuite, c'était très important pour nous pour mener aussi un combat syndical en tant que commission antiraciste dans notre syndicat sur la question de l'islamophobie et de porter des revendications où le syndicat Sud Éducation 93 va se positionner sur la question de l'islamophobie d'État. Donc là, Sud Éducation 93, après plusieurs années, on a fait voter au dernier congrès un texte d'orientation, voilà, excusez-moi, un texte d'orientation qui enfin reconnaît l'islamophobie, l'islamophobie d'État et qui reconnaît sur un texte qui est sur nos positions, pour pouvoir le porter, parce que c'est ça le problème, c'est qu'en fait, pour faire bouger une machine syndicale, c'est un combat de longue haleine, pour le faire porter ensuite pour la fédération entière Sud Éducation. Donc là, actuellement, il y a une commission antiraciste qui vient de se fonder à Sud Éducation et qui commence à porter, et d'ailleurs là, Sud Éducation, pas fait 93, Sud Éducation a mis en place une plainte contre le Conseil d'État, je crois, sur la question des abayas. Donc, et ça, c'est une nouveauté, c'est parce que nous, on porte le texte d'orientation Sud Éducation 93, c'est parce qu'il y a eu cette évolution-là. Mais effectivement, par exemple, nous, on est dans l'Union professionnelle solidaire, et c'est une question qui clive tellement, même dans d'autres champs professionnels, parce que l'islamophobie, c'est pas que à l'école. Alors, l'école est un endroit dans lequel l'islamophobie d'État est très présente avec des textes chaque année, mais en fait, on retrouve de l'islamophobie dans d'autres champs professionnels. Et pour l'instant, le mot islamophobie n'est même pas accepté comme terme, il faut dire racisme anti-musulman. Donc, c'est pour vous dire que même à l'extrême gauche, parler de ce sujet, c'est extrêmement difficile, mais en même temps, on n'a pas trop le choix, je crois, pour cette question de continuer la bataille. Voilà. On espère que là, il y a un congrès solidaire. Moi, je peux parler que de notre syndicat, mais là, le congrès solidaire donc de l'Union professionnelle va avoir lieu l'année prochaine, et je sais qu'il y a un texte sur l'islamophobie qui va être reporté, notamment par les deux syndicats qui portent beaucoup la question dans notre union syndicale, c'est Sud Éducation, nous, et Sud Asso, associatif aussi, qui vont essayer de porter ça pour que, enfin, ce soit reconnu au sein de Solidaires. Voilà, on espère que ça passe, mais c'est très difficile parce qu'il y a d'autres champs professionnels dans lesquels c'est un rapport de force. Hein, c'est, voilà.
Ouais, on va passer aux questions du public. Je vais poser une dernière question sur le résultat de toutes ces attaques islamophobes dans le corps éducatif. Et je vais revenir sur le lien de confiance qui doit être établi normalement entre les élèves et le corps enseignant. Est-ce que vous avez observé une distanciation, une rupture de confiance entre les élèves et le corps enseignant due à cette collaboration raciste entre l'État et le corps enseignant? C'est une question ultra vaste, j'avoue, c'était pas la petite dernière question de fin.
Non, pas du tout. Moi je pense et on pense que le rapport de confiance n'était déjà pas là, en fait, clairement. Enfin voilà, tout ce que j'ai vu depuis et c'est ce que je disais tout à l'heure aussi quand je parlais justement des rapports entre enseignants et familles, moi j'ai jamais eu l'impression d'avoir un rapport de confiance en fait entre l'école et les familles racisées. Après effectivement je pense qu'il y a quelque chose qui se joue de plus en plus, c'est que comme on disait par exemple, il y a les exclusions, les rapports d'incidents, etc. sur les élèves qui encore plus détruisent le rapport de confiance qui n'existait pas vraiment, mais qui était en tout cas possible de mener. Et voilà, je trouve que tout ce qui se passe en ce moment ne permet pas du tout d'établir un rapport de confiance. Et je voulais quand même revenir sur un truc par rapport à ce que vous disiez avant. Par exemple, là, c'est depuis cette année, il y a une circulaire qui a eu lieu, qui a été mise en place, qui explique que les enfants de maternelle au CM2 peuvent être maintenant exclus. Ouais, vraiment, peuvent être exclus, je crois que c'est après un conseil de discipline, donc non mais vraiment, je rigole pas, hein, qui peuvent être exclus, et en fait, dans la circulaire, les premières choses qui sont écrites, c'est s'il y a, j'ai plus le terme exact, vous m'excuserez, mais suspicion je suis désolé, non pas... Exactement, voilà. Suspicion d'atteinte aux valeurs de la République. Merci. Voilà, et c'est quand même le premier truc qui a lieu. Donc en fait, là, on est en train de dire aux familles et aux enfants, parce que c'est quand même les premiers concernés, qu'il faut vraiment ne rien dire. Si on a un problème, et justement, hier, on en parlait quand on était à Rabastin, il y a une maman qui nous disait qu'en fait, son enfant subissait en fait le racisme à l'école et qu'elle n'osait rien dire de peur d'être suspectée comme étant une personne qui atteint les valeurs de la République, etc. Donc en fait ça va super loin, et je veux dire que le rapport de confiance qui pour moi n'existait déjà pas au départ est encore plus en train de se détruire. Voilà.
Moi, je voulais ajouter quelque chose, c'est qu'on a assisté ces dernières années, notamment avec tout le contexte des années 2010, post-attentat, enfin il faut le dire, à des pratiques aussi de délation sur les élèves. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une plateforme qui s'appelle Signalement des atteintes à la laïcité. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Et en fait, on peut aller individuellement en tant que prof pour signaler. Si ça ne passe pas par votre chef d'établissement, par exemple, il peut refuser. En fait, vous pouvez aller le faire en ligne, en fait. Non, mais c'est ça. Et c'est un signalement aux atteintes de la... Et dedans, en plus, on n'a pas trop... Enfin, c'est tout. Et donc, dans les signalements, il y a beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose qui s'est fondé. Je crois que la plateforme, c'est 2017. Enfin, c'est sous Blanquer, ça, c'est sûr. C'est sous Blanquer. Et en fait, on assiste à ça où, par exemple, à chaque fois qu'il y a un événement tragique, la dernière fois quand il y a eu l'assassinat de notre collègue, etc., de surveiller la parole des élèves, mais surtout de suspecter aussi des comportements. Il y a quelque chose qui se déplace aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la parole de l'élève ou l'acte de l'élève, ça va être, on va suspecter par rapport à un comportement, par rapport à quelque chose qu'il n'a pas fait. Par exemple, il n'a pas fait ça, donc il n'a pas fait la minute de silence, ou il n'a pas dit ça, donc il est ça. Donc on est quand même passé d'un il ou elle fait quelque chose à il n'a pas fait quelque chose, donc on suspecte que ça veut dire ça. Et c'est extrêmement grave, et ça c'est vraiment la dérive dans laquelle on est depuis Ouais, depuis 2017 à peu près. Mmh. Voilà, c'est là où je date, 2015-2017, ça commence là, cette espèce de... Et ça n'a fait qu'empirer depuis, jusqu'à aujourd'hui.
Merci Manel, merci Karim. On va passer aux questions du public.
Merci. Je vais faire passer le micro, si vous le souhaitez.
Ouais. J'avais une question à laquelle vous avez un peu répondu quand vous avez parlé de comment vivre avec des collègues qui ne sont pas d'accord avec vos revendications. Je voulais un petit peu, si vous pouvez en parler, par rapport à peut-être un paternalisme que vous pouvez ressentir de la part de vos chefs d'établissement. Comment est-ce qu'on peut vivre ce genre de situation où on attend d'avoir un avis positif d'un supérieur pour parler de choses primordiales envers ses élèves? Et je constate que vous avez eu la chance peut-être d'être avec dans des établissements qui étaient en accord avec ce que vous voulez dire. Plus ou moins, effectivement, plus ou moins, peut-être que des fois ça se passait pas très bien. Mais comment réagir en fait dans le cas où ça passe pas du tout, quoi?
Question assez générale en fait sur la réception des élèves et j'imagine tout ça on le construit sur un temps long bien évidemment, puis en fonction aussi des publics, des âges, etc. Est-ce que il y a des retours à faire là-dessus, j'ai retenu le terme de drainage, c'est-à-dire c'est beaucoup vous partez aussi beaucoup des élèves, de leurs questions et Il y a ce côté laboratoire aussi au quotidien. Mais bon, il y a aussi votre cadrage, tout votre outillage. Donc, comment l'alchimie entre les deux permet d'apprécier en fait une progression aussi dans leur outillage à eux. Et voilà, vous diriez que, je ne sais pas, ça se joue sur des mois, des années, des fois quelques semaines suffisent. Pour, apprécier d'une façon multiple, bien sûr, cet outillage-là. Merci.
Ma question, c'était pourquoi avoir investi le cadre syndical pour mener la lutte antiraciste au sein de l'éducation nationale? Et du coup, après... pourquoi Sud Éducation? Enfin, du moins, est-ce que... Ça répond au choix du syndicat derrière, ou pas forcément?
Je vais répondre à la première question, et puis Karim il va revenir, peut-être il va répondre à la deuxième question, enfin à la même question peut-être, parce qu'en fait on n'a pas la même réponse, puisqu'on n'est pas aux mêmes endroits. Moi je suis dans le second degré, Karim il est en premier degré, donc moi j'ai un chef d'établissement, ou une chef d'établissement, et Karim il a une directeur ou directrice d'école, et c'est pas les mêmes rapports hiérarchiques. Alors concernant dans le cadre d'un second degré, donc quand vous avez un chef d'établissement qui est votre chef d'établissement et qui a un rapport d'autorité sur vous, c'est-à-dire il a aussi le rapport de... il peut faire des rapports, enfin voilà, etc. À mon sens, parce que moi j'ai dit là cette année ça se passe bien, mais en fait bon, j'ai pas eu toutes les années ça se passait bien, j'ai aussi des chefs assez atroces sur ces questions. Et moi ma seule stratégie et moi ça m'est arrivé sur les questions de race, très précisément c'est arrivé sur des questions de mobilisation de lycéens et de lycéennes contre le bac, sur des blocus où, en fait en Seine-Saint-Denis quand il y a des blocus en fait il y a la police tout de suite, il y a des gaz tout de suite, enfin faut pas, c'est pas à Paris, ils font comme, non c'est tout de suite, il y a un outillage parce que, et c'est mon chef d'établissement qui a appelé et j'ai des élèves qui ont été interpellés et c'était majoritaire, dans mon lycée il n'y a pas que des personnes non blanches, il y a aussi des personnes blanches qui viennent des pavillons à Aulnay-sous-Bois, mais par contre les personnes qui ont été interpellées c'était que des Noirs et des Arabes, hein, c'est-à-dire, et c'était très, et aussi l'organisation, il organise aussi des conseils de discipline pour certains élèves qui étaient impliqués dans les blocus, et c'était que des garçons non blancs. Et ça a été l'occasion pour moi de discuter avec des collègues et de dire, parce que du coup ils n'entendent jamais ces questions, et là de dire, mais en fait quand même, on est des collègues syndicalistes, donc moi je suis quand même, l'endroit où je peux faire alliance, c'est quand même avec des collègues qui se mobilisent un minimum sur ces questions, ou qui se mobilisent un minimum pour le service public d'éducation. Je pense qu'on arrive à trouver des brèches là. Et donc à ce moment-là de crise, j'ai commencé à dire, mais quand même, là, tu ne veux pas me dire que quand même, ce n'est pas des élèves qui sont choisis, qui sont filtrés, parce que c'est que des garçons noirs et arabes qui sont en conseil de discipline, alors que le blocage, c'était quand même tout le lycée. Donc, il y a un moment donné, c'est que vraiment, il y a un biais raciste dans l'organisation de la sanction. Et ça, c'est très important, parce qu'on en parle très peu, mais on en parle beaucoup dans le livre, c'est qui est discipliné à l'école, qui subit un régime de discipline et qui ne le subit pas. Et ça, c'est très important, parce qu'à l'école, quand il y a des personnes blanches et non blanches, moi, je le vois
très régulièrement, parce qu'en plus je suis dans un endroit un peu plus mixte qu'auparavant, c'est quand même les personnes non blanches et les garçons non blancs qui sont disciplinés, donc qui n'ont pas le droit à la même erreur ou au même au droit, par exemple, ils n'ont pas le droit à la rébellion. C'est, ça, c'est intéressant, parce que c'est ça le truc, c'est ils sont pas d'accord avec le bac Blanquer, ils sont pas d'accord avec Parcoursup, d'ailleurs les profs sont pas d'accord avec eux aussi, donc on est ensemble, mais eux ils n'ont pas le droit à la rébellion, et donc ils sont, et c'est là qu'on a pu faire des mobilisations si tu veux sur cette question là après sur les abayas. Par exemple, j'ai eu les deux régimes. J'ai eu, actuellement, il ne faudrait pas que je le dise, mais moi, je suis avec une chef, je pense qu'elle ne le dira jamais, parce qu'elle n'a pas le droit de le dire, mais je pense que ce n'est pas un problème pour elle. Voilà. Donc, elle est dans la politique de ne rien faire et laisser passer. Donc, elle ne, vraiment, et donc, du coup, je suis dans un contexte assez le mieux que je pourrais avoir, c'est-à-dire elle ne peut pas dire que... Mais elle ne va pas attaquer les élèves. Elle va, mais j'ai eu aussi l'autre régime... je pense que là c'était d'ailleurs à peu près tout, c'est-à-dire c'était même pas que les abayas, c'était aussi les tenues des filles, hein, c'est-à-dire les jeans, enfin il y avait, et là ça a été et là c'est très difficile parce que par exemple sur la, moi je sais que dans mon établissement aujourd'hui sur la question de l'abaya, sur la question du voile, je suis minoritaire, c'est-à-dire je ne peux même avec des femmes, même si je pourrais parler du féminisme, dire ouais mais tu comprends quand même, parce que des fois il faut jouer avec moi j'essaie de travailler aussi sur les autres questions pour essayer de convaincre les collègues, bah je sais que sur ça c'est un blocage. Et là par exemple une année j'ai eu un souci avec une élève en collège qui était dans sa recherche religieuse, donc du coup qui changeait un peu de choses, et je rentre pas dans les détails parce que du coup par ailleurs il y avait aussi tout un truc autour de certains discours qu'elle portait, et moi la seule stratégie que j'ai eue c'était de me dire ok, et à un moment donné ça va mal se passer, je le sens parce qu'elle dit des choses qui dérangent et il y a des profs qui commencent un petit peu, peut-être qu'ils vont la signaler. Je suis allée voir une CPE qui comprend les questions parce qu'elle est personne musulmane concernée, elle comprend, et je lui dis écoute, il faut faire quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Mais il ne faut pas qu'on parle aux autres collègues, parce que sinon, si on commence à le dire, et ben en fait, ça va devenir un signalement. Et donc, on a géré entre nous deux, et c'est resté entre nous deux, et personne ne l'a su. Mais c'est là où je dis que c'est très important de savoir avec qui on peut travailler sur les questions de race. Voilà. Et des fois, on n'a personne avec qui travailler, et c'est terrible, parce que du coup, les élèves sont seuls, et nous aussi. Voilà.
Non, j'ai rien à ajouter, parce que je pense que c'est pareil. Par contre, moi, je voulais juste dire que de manière générale, moi, ce que j'essaye de faire aussi, c'est souvent mettre les questions de genre en parallèle avec les questions de race. Je sais pas si, par exemple, je sais que à l'école, on commence de plus en plus à questionner les questions de genre, enfin les rapports de genre, et pas du tout les questions de race. Et donc, en général, ce que j'essaye de faire, de dire, pourquoi on travaillerait sur ça, et etc. Et pourquoi, en fait, on travaillerait pas sur les questions raciales aussi et le racisme. Je ne sais pas si ça répond un peu, mais voilà, j'essaye de...
Est-ce que vous vous sentez vraiment empêché de faire votre métier comme vous l'aimeriez par vos supérieurs?
Oui.
Tous les jours.
En fait, je pense que c'est là que la question se joue aussi. Je pense que dans le premier degré, dans le second degré, pas forcément, parce que... je trouve qu'on a une pédagogie, on a une liberté pédagogique dans le premier degré qui n'est pas la même que dans le second degré. On n'a pas de supérieur hiérarchique tous les jours sur notre dos, ou qui, pas encore, attention, non, mais... à part les personnes qui peuvent aller nous balancer, je trouve qu'on est quand même OK, et on peut refuser les inspections, y a quand même des choses qui font que... Moi, je le vois pas encore. Mais... Je dis, c'est grave de dire ça alors que j'étais à Pasteur, quoi. Non, mais bref.
Non. Le seul moment où je me sens en sécurité, c'est quand je ferme ma salle de classe et que je fais mon cours. Et que, en tout cas, en 12 ans de carrière, pour l'instant, en 12 ans de carrière, moi, mes élèves, ils ont un rapport de confiance avec moi. Et donc, du coup, parce qu'il est dans la classe et dans ma... Enfin, moi, j'ai pas eu de soucis sur quelque chose que j'ai fait. Mais parce qu'en fait, je suis dans une pédagogie critique, active, etc. Et c'est le seul moment. Mais sinon, par exemple, sur le club, il y a des choses... Je pense qu'il y a des sujets, pour l'instant, on ne peut pas les porter. On ne pourrait pas faire un collage. Moi, j'aimerais bien, dans 2-3 ans, faire un collage sur la question de l'islamophobie. Mais je sens que ça va être... Mais d'ailleurs, on ne pourrait pas le faire parce que c'est interdit. On ne pourrait pas le faire. Et en même temps, les élèves
me parlent de ça tous les jours.
Je veux dire, c'est les élèves, et c'est là où on voit peut-être le truc sur la confiance, c'est que moi, je fais des rencontres radicales en EMC où on fait des débats libres, et ils discutent de sujets. Et en fait, on voit vraiment que la rupture de confiance, elle est là, c'est-à-dire que l'institution, elle porte quelque chose, et les élèves dans les quartiers, ils sont contre majoritairement, mais d'ailleurs, des élèves non blancs, mais aussi des élèves blancs. Je veux dire, il y a des élèves blancs qui vivent avec des élèves qui sont là, qui évoluent dans les quartiers avec leurs camarades, et en fait, pour eux, ils se disent, mais pourquoi pourquoi autant de choses ? Pourquoi pas comme ils me disent toujours, ouais, mais en Angleterre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, pourquoi nous, c'est comme ça ? Et en fait, cette question montre qu'il y a vraiment une coupure, une rupture entre le public qui va à l'école et les personnes qui enseignent à l'école. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas là, mais ils ne peuvent pas le dire à tout le monde, et ils vont le dire qu'à des professeurs en qui ils ont confiance.
Ouais. Juste pour, du coup... pareil, je pense qu'on aura des réponses complètement différentes. Moi je les vois même en quelques jours. Je sais pas, je vais te prendre un exemple rapide. Il y a Laura Ansafou qui a fait un livre sur la question des cheveux afro, et donc j'ai mené avec elle deux ateliers, et donc j'avais une élève en classe qui à chaque fois parlait de ses cheveux de manière assez négative, et qui après les vacances scolaires est venue avec ses cheveux afro. Avec un afro en fait, et du coup elle a dit, ah bah c'est grâce à la dame que j'ai vue l'autre fois qui a écrit le livre et qui en fait m'a dit que mes cheveux étaient beaux, et du coup voilà. Donc oui, je pense que ça peut faire ses effets rapidement, et pour le plus long terme, je pense que moi vraiment je le dis, je pense que le collège les détruit sincèrement pour plein de raisons, non mais vraiment. D'ailleurs ce sera l'occasion aussi de le dire là. J'ai toujours des contacts avec certains élèves qui sont maintenant en troisième, seconde, etc. Là, il y a une journaliste de LSD qui m'a contacté pour le podcast. Et LSD, je crois. Ouais, ok. Ouais, voilà. Et du coup, pour parler justement de la manière dont l'école peut être violente avec les élèves, mais pas que. Et donc j'ai contacté trois élèves à moi qui sont maintenant en troisième, et ces trois élèves-là sont venus justement participer au podcast, et en fait il y en a un, vraiment c'était ouf quoi. Enfin il est politiquement parlant, il est vraiment 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 au fait de plein de choses. Une autre aussi, et du coup oui, l'évolution je la vois, en tout cas sur le long terme aussi, quand je vois mes élèves grandir, parce que je pense qu'on est aussi dans une société où on a maintenant accès, alors on pourra tout dire des réseaux sociaux, mais je pense qu'il y a quand même aussi des choses positives dans les réseaux sociaux, et je pense qu'en réalité plus on travaille avec les élèves des petits et petites, et plus on leur permet de déconstruire des choses qui sont déjà intégrées en réalité dès 3 ans quoi. Donc moi j'ai vu en tout cas des choses se faire sur le court terme, mais aussi sur le long terme. Voilà. Et après, mais il y a aussi des choses qui sont parfois négatives. Hein. Enfin, je veux dire la question de la masculinité par exemple. Voilà, j'ai vu des garçons grandir, devenir jeune adulte ou ado, et ne plus me dire bonjour parce que justement c'est devenu des hommes quoi. Enfin voilà. Ouais, en tout cas avec les plus petits, je vois très 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 rapidement, et comme je disais tout à l'heure par exemple, par rapport à la question du foot dans la cour de récréation, ça s'est fait en 3 semaines quoi. En 3 semaines, on avait compris qu'il y avait vraiment un problème de genre et d'espace. Donc ouais. Et je pense que tu n'as pas la même réponse.
Oui, après je me suis dit peut-être que si on voulait, parce que du coup, je voulais peut-être répondre à la dernière question, non, peut-être, ouais, comme ça on a. Alors pourquoi on a choisi Sud ? Pourquoi le cadre syndical ? C'est une large question. Alors globalement, en fait, nous étions syndiqués à Sud Éducation 93 de manière assez concomitante avec aussi notre engagement politique antiraciste. Mais du coup, cet engagement, il se faisait plutôt à l'extérieur du syndicat, c'est-à-dire il se faisait dans le cadre du quand on était décolonial ou de d'autres événements qui ont eu lieu en région parisienne. Et c'est un effet j'aime pas dire un effet d'opportunité, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire il y a eu un moment, une possibilité de il y a eu ce stage organisé par des femmes blanches où en fait on a appris qu'elles faisaient quelque chose sur la race sans nous. En fait, elles savaient que c'était pas très OK, donc elles sont venues nous voir pour le faire avec nous. Nous, on a dit OK, mais si on le fait sous nos conditions. On va pas être des faire-valoirs accessoires, etc. Et après, on a reconstruit la commission antiraciste. Et moi, je pense que ce qui est possible à la suite, qui n'a pas été possible dans d'autres, mais c'est que en fait Sud est un syndicat autogestionnaire où c'est des AG qui vont décider. Alors déjà c'est deux choses. C'est déjà c'est un syndicat qui est autogestionnaire, donc les AG c'est les AG qui ont le pouvoir. Donc du coup c'est plus simple de faire bouger des lignes dans un cadre autogestionnaire, même s'il n'est pas totalement autogestionnaire, il faut bien se l'entendre. Enfin il y a aussi des limites. Mais et du coup il y a cette dimension là. Et aussi dans le Sud il y a beaucoup de, et c'est pour ça que ça s'appelle Entre en pédagogie antiraciste. C'est un syndicat qui réfléchit pas seulement aux conditions de travail, au statut, etc. C'est un syndicat qui réfléchit beaucoup à la transformation sociale. Enfin, c'est dans les statuts. Et donc, c'est un syndicat dans lequel il y a beaucoup de pédagogues. En tout cas, nous, en tant que Sud Éducation, on réfléchit à transformer l'école. C'est-à-dire, et donc, il y a des stages pédagogiques. Bah, c'est comme ça que moi, j'ai découvert les pédagogies freinées. Puis, même si je ne les ai pas toujours appliquées au second degré, parce que bah, c'est un peu difficile, mais ça, c'est une autre question. C'est, je pense, tout ça qui a fait que ça a été à Sud que c'était possible de construire. Ça a été possible à un moment donné à Sud Éducation 93 de construire le stage antiraciste, parce qu'on était des militants antiracistes dans ce syndicat. Parce qu'on travaille dans le 93, pour beaucoup, parce que c'est un syndicat autogestionnaire, parce que c'est un syndicat qui réfléchit aux pédagogies. Je pense qu'il y a eu tout ça en même temps, et qu'on a eu cette opportunité au croisement des années 2016-2017. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Alors, non, on ne parle pas de ça du tout. On parle de non-mixité de race. On ne parle pas de l'école. Hein. On parlait, en fait, pendant nos stages antiracistes, on a des ateliers où en fait les personnes concernées par le racisme, qui subissent le racisme, se réunissent entre personnes concernées par le racisme pour pouvoir évoquer des choses qu'elles subissent. Voilà, donc c'est des personnes racisées en général qui se réunissent entre elles pour discuter de racisme.
Et est-ce que vous pensez que ce système va favoriser la non-discrimination ?
C'est pas forcément la question pour le coup. C'est plutôt parce que on a besoin de parler de choses qui nous concernent. Donc je pense que, je sais pas, enfin s'il y a des femmes par exemple qui subissent le sexisme, bah elles aimeraient bien en parler entre femmes, je suppose. S'il y a des personnes LGBTQIA+ qui subissent les LGBTQI-phobies, elles aiment bien en parler, enfin elles aimeraient bien en parler entre personnes concernées. C'est la même chose pour les personnes qui subissent le racisme. Et ça veut pas dire, ça n'a pas vocation à rester en fait. C'est pas parce qu'on a des ateliers en non mixité que forcément après on n'a pas de lien avec les personnes blanches par exemple. Voilà, c'est juste un outil.
Voilà. Moi, je voulais juste ajouter aussi sur la non-mixité, parce que c'est important. La non-mixité, c'est un outil de lutte, en fait. C'est un outil pour se réunir entre personnes concernées par une question, c'est pour parler de choses qui nous concernent, et c'est aussi pour s'organiser, pour lutter, justement, pour arriver en mixité avec des revendications, avec des projets, avec un stage antiraciste, c'est aussi ça. Et juste pour le dire, en fait, moi, j'aime bien utiliser cet exemple parce qu'au final, une heure d'info syndicale dans un établissement scolaire, c'est une réunion en non-mixité de personnel de l'éducation sans leur chef pour s'organiser, pour l'outil de travail, donc pour s'organiser. Et en fait, c'est un peu la même idée, même si, bien sûr, il n'y a pas que ça dans la non-mixité. Il y a aussi le fait de se retrouver en confiance, le fait de permettre la circulation plus libre de la parole, parce que quand on est... pas avec les personnes qui dominent la parole, bah, du coup on peut mieux parler. Enfin, il y a plein d'aspects, mais c'est d'abord un outil de lutte, voilà. Et d'auto-organisation.
Merci. Juste pour rebondir un peu, tout à l'heure vous avez parlé de quand vous êtes en épuisement, de passer le relais aux personnes blanches. Ma question concerne comment vous faites pour... qu'est-ce que vous avez mis comme processus d'autorégulation pour éviter justement que les personnes blanches reprennent la place à ce moment-là ? Parce que si je prends mon exemple, je trouve que même en ayant déconstruit beaucoup de choses, on reste particulièrement grave sur la question.
En fait, c'est la question la plus difficile. Moi, je crois en tout cas dans la lutte, c'est que bien sûr que moi, je sais que dans une société, en tout cas en France, dans une société où on est minoritaire, minorisé, et on restera minoritaire, minorisé, on ne pourra pas faire sans les personnes blanches. Enfin, pour cette lutte-là, c'est... Et en même temps, comme l'a dit Karim à un moment donné, on voit bien que nous, quand on voit les commissions de lutte dans notre syndicat, la commission antisexiste, il n'y a que des femmes. La commission LGBTQ, ou des personnes... non-binaire. La commission LGBTQIA+, elle réunit aussi que les personnes qui sont concernées, mais que nous, si on la laisse en mixité, En fait, on va voir des personnes blanches venir. Et c'est pas le problème qu'elles viennent écouter ce qu'on fait, c'est le problème qu'elles prennent en charge des choses, notamment parce qu'on sait aussi que les personnes non blanches parfois bah, elles ont aussi voilà, puisqu'on est dominé, minorisé, qu'on a moins de parole, des fois on va avoir plus d'épuisement, donc on va plus lâcher le militantisme à des périodes, etc., etc. Et il va y avoir des moments de reflux et de flux, et au moment du reflux bah, en fait c'est très difficile pour des personnes blanches de laisser le vide, voilà, c'est ça, cette espèce de... Et nous on l'a vécu dans notre commission, c'est-à-dire à un moment, il y a eu un moment de vide parce qu'il y a eu le Covid, ben donc les personnes qui étaient militantes, non, elles n'étaient plus trop là, notamment moi, voilà, on a eu des choses, et la commission elle a été reprise très rapidement par une personne avec qui on, au début voilà, on s'entendait plus, enfin on a travaillé avec cette personne, mais du coup qui a pris en charge la commission et qui a décidé, qui a commencé à décider, et donc du coup c'est à ce moment-là nous qu'on s'est dit ah oui, au bout d'un an, quand un peu moins d'un an, on s'est dit ah non, en fait, pour l'instant, en tout cas dans l'état du syndicat et dans l'alliance qu'on a, on peut pas, pour l'instant, on peut pas, il faut qu'on maintienne l'auto-organisation en non-mixité. Je pense pas que ça passera toute la vie. Voilà, moi je pense sincèrement qu'à un moment ça va passer, mais que pour le moment, pour pouvoir construire un syndicalisme de lutte sur la question, dans un contexte très violent sur la question aussi, voilà, dans un truc de confrontation, eh bien, pour l'instant, on doit être en lead et en tête. Mais à un moment donné, je pense que ça va changer. Mais il faut laisser le temps. Un peu comme dans les milieux féministes, hein, je pense aussi. Enfin, même si, bon, je pense qu'il y aurait des choses à dire, mais c'est une autre question. Mais voilà ce qui se dit. Et on voit en tout cas que là, avec les conflits qu'on a eus, il y a quand même des personnes, parce qu'on parle beaucoup des personnes qui posent problème, mais moi je dis aussi que j'ai vu des camarades blancs et blanches qui ont changé et qui sont, nous on dit de passer du statut de allié à complice. Aussi, c'est un texte, abolir le complexe de l'allié et faire de nous des complices, c'est-à-dire l'exemple, pendant la guerre d'Algérie, les porteurs de valises, ils ne savaient pas ce qu'il y avait dans les valises, ils portaient les valises, et point. Et du coup, ça veut dire être complice de la lutte, et du coup, d'accepter dans la lutte de ne pas tout savoir, de ne pas tout maîtriser, et d'être complice et de nous faire confiance. Et ça, c'est l'endroit où on a encore du travail à faire dans l'alliance, je crois.
Je veux revenir aussi sur le relais politique, ou en tout cas le relais que vous attendez au niveau de la société. Je n'ai pas bien compris si c'était au niveau syndical seulement ou si c'est au niveau de la société, parce que moi, je pensais à la place de la FCPE, par exemple, qui pourrait être aussi peut-être sollicitée. Et ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que moi, je comprends tout à fait l'intérêt de la non-mixité, parce qu'effectivement, c'est d'abord aux intérêts, c'est de s'exprimer, donc ça, c'est normal. Après, j'ai quelque chose d'assez personnel à dire, c'est que moi, je suis né blanc, mais je n'ai pas choisi. C'est pas mon choix, je suis né comme ça. Et je me sens pas spécialement blanc en plus. Moi, j'ai eu une histoire avec la guerre d'Algérie aussi, ma mère est pied noir. Donc je suis très très intéressé par les questions antiracistes justement. Je suis plutôt du côté antiraciste. Et donc je me vis un tout petit peu en difficulté quand chaque fois j'ai l'impression d'être un peu stigmatisé parce que je suis blanc. Donc, j'ai pas choisi. Et il y a une deuxième chose que je voulais dire, c'est que je suis un bonhomme, mais j'ai pas choisi d'être un mec non plus. Donc je suis plutôt intéressé par tout ce qui est injustice. Alors moi, je ne prends pas la parole, hein. J'écoute. Et je ne suis pas là pour parler à la place des gens. Par contre, j'aimerais bien soutenir et j'aimerais bien qu'on m'aide à me déconstruire, justement. Merci.
Oui, effectivement, on ne choisit pas de naître blanc ou autre. Mais ça ne veut pas dire qu'on participe pas à un système de domination, en fait, où on est dominant. Dans un système, il y a des dominants, des dominantes et des personnes dominées. Moi, je pense que l'important, c'est d'écouter les personnes qui sont concernées, de les laisser s'organiser entre elles et entre eux. Et quoi dire de plus, Non, mais là, je sens le... horrible. Je sais plus, enfin, pour la question de je sais même plus, du coup je suis vraiment désolé. Je sais pas quoi dire à part le fait que je connais mes privilèges dans la vie. Je sais que je sais que par exemple maintenant je suis d'une classe sociale un peu plus aisée. Donc du coup je sais que je peux être dominant par ailleurs sur les questions de classe sociale. Je sais que je suis une personne queer, donc du coup, je suis dominée sur les questions d'hétéronormativité. Enfin voilà, pour moi, ce qui est important, c'est de savoir où est-ce qu'on se place dans la société, savoir reconnaître ses privilèges et savoir se taire aussi et écouter les personnes qui sont concernées lorsqu'elles nous disent des choses qu'elles ont à adresser concernant leur domination. Et voilà, et par rapport à... Ah oui, c'était ça que je voulais juste dire. Par rapport à la question de j'aimerais qu'on me donne des outils, etc. Les outils sont là, en fait. On est dans une librairie, il y en a plein, par exemple. Il y en a sur Internet, etc. Et en fait, moi, je pense que ce qui est vraiment important, et ce qu'on disait tout à l'heure, on disait qu'on peut être parfois épuisé en salle des profs lorsqu'on a à faire le travail pédagogique pour expliquer à nos collègues pourquoi ils sont racistes ou pas racistes, etc., etc. On parle d'épuisement et on parle de santé mentale, en réalité. Quand on dit que les personnes, par exemple, dominées dans la société... ont beaucoup plus en fait de difficultés en santé mentale, c'est parce que justement elles ont tout ça à éprouver. Donc je pense pas qu'en plus elles doivent faire l'effort d'être pédagogue avec les autres, quoi. Et je pense que justement quand on a un allié ou complice, peu importe le terme qu'on utilisera, bah la première chose à faire c'est de s'éduquer soi-même et de réussir à pas demander beaucoup aux personnes concernées. Voilà. Je sais pas si ça.
Après, je voulais juste ajouter aussi que, en fait, je pense que c'est important parce qu'on n'a pas parlé. Enfin, je pense que c'est important de dire que les personnes blanches ont leur part à faire dans ce travail-là, à la place où elles sont. Et notamment, il y a tout un travail à faire de travailler sur la domination blanche, sur la blanchité, sur le système de privilèges et pourquoi ces privilèges. Et en fait, d'ailleurs, c'est pareil d'ailleurs, dans le cadre des questions féministes. Ça ne veut pas dire en fait, que c'est que les personnes non blanches qui vont parler du racisme et qui vont travailler la question raciale. Non, c'est aussi, et d'ailleurs, c'est peut-être d'abord, en tout cas, c'est la part, il y a aussi la part des personnes blanches. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et comme il y a la part des hommes à se déconstruire, mais à pas que, et après à entrer dans la lutte, mais d'une autre manière. En fait, d'une autre manière, en fait. Et c'est surtout ça qu'on porte, en fait, comme question. Donc, ce livre, c'est pour ça qu'on a fait ce livre. C'était que on aurait pu rester entre nous, mais c'est pas ça. Nous, on s'est dit, on va faire des stages, on va faire des outils, on va écrire un bouquin. Comme ça, on va offrir la possibilité aux personnes non blanches et aux personnes blanches. Bah, du coup, de se mettre aussi dans ce chemin et de s'engager dans une pédagogie antiraciste. Voilà,
J'ai l'impression qu'il y a un sujet autour duquel on a pas mal tourné et que vous avez évoqué, c'est à quel point ça a un coût symbolique pour une personne racisée de s'exprimer sur le racisme, puisqu'elle est renvoyée en permanence à sa non-neutralité, et à quel point, et c'était par rapport aux camarades quand tu as évoqué Visa, par exemple, et à quel point pour les personnes blanches, par contre, ça constitue un bénéfice symbolique d'être un blanc antiraciste. Et je pense que c'est un des points cruciaux, à mon avis, sur votre engagement. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a des moments où vous l'avez ressenti plus, ce truc sur la neutralité ?
Je sais pas du tout. Non, mais sincèrement. Sur le truc de... Mais oui, mais c'est hyper intéressant parce qu'il y a une personne qui s'appelle Ndéla Paye, je ne sais pas si vous connaissez, enfin voilà, c'est une femme noire qui travaillait en sciences sociales et qui disait, musulmane, je précise aussi, parce que voilà, et donc elle travaillait sur la question du voile et d'être une femme musulmane dans la société française. Et les directeurs de thèse ne voulaient pas travailler avec elle parce qu'on lui a dit, mais tu es trop impliquée par le sujet. Pour pouvoir être une bonne... Voilà, exactement. Tu n'as pas assez de distance avec le sujet. Pour être une bonne sociologue et pour pouvoir... Donc, ça veut dire énormément de choses. Hein. Ça veut dire que déjà, on considère que ça ne peut pas être une bonne sociologue parce qu'elle est noire. On ne va pas se mentir. Et ça veut dire qu'en fait, on est tous et toutes concernés par des sujets de la société dans lesquels on... Et puis, je connais plein de meufs féministes qui travaillent sur les questions de genre en sociologie. Et enfin, voilà. Et ce qui était intéressant, et ce qu'elle a répondu, ce que j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est de dire... Mais c'est bizarre parce que tous les livres qui sont écrits en sociologie sur la blanchité sont écrites par des personnes blanches. Donc, pourtant, il n'y a pas de distanciation par rapport à ce sujet-là. Et oui, après, par rapport à l'épuisement et neutralité, évidemment, et puis il y a aussi un imaginaire qui est raciste, en fait, de penser qu'on n'a pas assez de recul, parce qu'on est en général souvent, je pense que tu me contrerais, on est considéré comme des personnes un peu plus violentes, un peu plus véhémentes, plus. Ça contribue énormément en fait. Hein, et là, pour un truc un peu plus personnel, ça se retrouve même dans la vie privée. C'est-à-dire que, je ne sais pas, quand on est parfois avec des personnes blanches et qu'on essaye de parler de racisme à d'autres personnes blanches, quand on va le dire nous, ça ne va pas être perçu de la même manière et reçu de la même manière. En revanche, si mon copain ou mon peu importe va le dire la même chose, ça va être accepté et entendu. Donc en fait, ouais, c'est vraiment quelque chose, enfin oui, mais c'est vraiment quelque chose qu'on ressent au quotidien et encore plus quand on travaille sur ces questions-là dans notre taf, quoi.
Oui, parce que la dernière chose, c'est que souvent, on va nous dire ce que vous dites, c'est ce que vous ressentez, sans penser à un moment donné qu'en fait, moi, je ne suis pas juste concernée, je suis formée aux questions antiracistes, je forme aux questions antiracistes dans le syndicat, en pédagogie. Et ce n'est pas juste moi, mon ressenti personnel, Manel Benoubaker, voilà. C'est aussi, j'ai lu, j'ai travaillé, je me suis formée à ces questions-là, j'ai ma propre expertise sur le sujet. Et ça, c'est quelque chose qui nous est pas reconnu, c'est notre expertise sur le sujet, parce qu'en fait, toutes les personnes non blanches ne peuvent pas former sur les questions antiracistes. Ce n'est pas parce qu'on est non blanc qu'en fait, tout de suite, on est antiraciste, c'est pas comme ça, ça marche pas comme ça. C'est parce qu'on a fait tout ce travail de formation, de déconstruction, de formation, d'apprentissage, qu'on est capable de former et de déceler, d'avoir cette capacité en tant que commission de veille sur la question antiraciste aussi, à la fois avec l'institution, mais aussi à l'intérieur de notre syndicat. Et c'est ça qui nous est pas reconnu, c'est cette expertise. Et c'est intéressant parce que du coup, c'est un peu ce que nous on peut aussi dire quand on regarde les manuels scolaires, pour faire le lien, du coup qu'on voit que les personnes non blanches, elles sont pas reconnues comme des personnes expertes en fait dans la société, et ça fait partie d'un système raciste en fait. C'est ça que je voulais un peu conclure, c'est ça la non neutralité mais aussi la non formation.
Merci Karim, merci Manel, merci à tous d'être venus, merci à Terra Nova de nous avoir accueillis. On se retrouve très bientôt pour la prochaine rencontre.
Et merci à Sia et Basile pour la modération.
Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.